Bonsoir. Alors, le texte dont on va parler ce soir se trouve dans les Bibles bleues, page 1187. Attention, il y a un piège, elle n'existe pas, mais elle est juste en face, quelle chance, de la page 1186. Donc, il faut chercher dans vos Bibles bleues. La page 1186 est juste en face. Vous avez le premier chapitre de 1 Pierre. Et je vais lire les versets 1 à 9. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis et qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu le Père, dans la consécration de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ainsi vous êtes transportés d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transporté d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi.
À mon tour de vous dire bonsoir. Nous allons cet été passer certains dimanches à nous pencher sur le début de la première lettre de Pierre. Alors ça ne sera pas forcément tous les dimanches consécutifs, il y aura d'autres thèmes qui seront abordés également, mais nous allons ce soir commencer cette petite série d'été, si vous voulez bien, sur la première lettre de Pierre. Je dois confesser que cette lettre, c'est un de mes livres préférés du Nouveau Testament. Je voudrais dire un mot du contexte de cette lettre. Auparavant, je voudrais signaler, quelques personnes, peut-être une poignée de personnes parmi vous, auront entendu une version un peu plus longue de ce message l'automne dernier, le dimanche matin, ici même. Voilà. Il arrive, surtout l'été, pour diverses raisons, que nous adaptions des messages qui ont été donnés le dimanche matin. C'est généralement pas le cas, mais c'est le cas ce soir. Mais bon, un rappel, surtout 9 mois après, je pense que ça ne sera pas de trop. Un mot du contexte de cette lettre. Pierre écrit à des chrétiens d'Asie mineure. Alors l'Asie mineure, ça correspond à la Turquie actuelle, à peu près. Et c'était des chrétiens d'origine païenne, en tout cas pour la plupart d'entre eux, donc des non-juifs, qui étaient souvent rejetés et parfois maltraités même par leurs contemporains. Parce qu'ils s'étaient tournés vers Jésus-Christ et qu'ils avaient reconnu en lui leur Seigneur et leur Sauveur, ils étaient les cibles d'hostilité de la part de ceux qui les entouraient. Et dans ce contexte de souffrance, Pierre veut que les chrétiens se souviennent de tout ce que Dieu a fait pour eux. Et je vous invite donc à examiner le chapitre 1. Alors, Marion a lu à ma demande d'ailleurs les versets 1 à 9, mais en fait ce sont surtout les versets 3 à 9 qui vont attirer notre attention. Il y a une salutation au début dans les deux premiers versets qui est en fait très riche. On pourrait très bien faire un message juste sur cette salutation, mais ce n'est pas ce qu'on va faire ce soir. Nous allons relever 3 points essentiels dans ce passage. Et si vous trouvez les titres un peu bizarres, ben je les expliquerai. Une assurance absolue, une joie fondamentale et une foi éprouvée. Alors premièrement, une assurance absolue. Pierre écrit cette lettre à des hommes et des femmes que, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, il ne connaît pas personnellement. Mais ce qu'il sait à propos d'eux, en revanche, c'est qu'ils ont pris un jour la décision de reconnaître en Jésus-Christ leur Sauveur et leur Seigneur. eux qui étaient autrefois des païens, qui adoraient une multitude de dieux, qui étaient complètement ignorants en fait de ce qui concerne le Dieu véritable que nous présente la Bible, eh bien aujourd'hui, ils sont les fils et les filles adoptés de Dieu. Et ce que Dieu a fait pour eux, pour pouvoir les adopter ainsi, est tout simplement magnifique. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour eux ? Si on regarde ce que dit le texte, au verset 3, « Selon sa grande compassion, il les a fait naître de nouveau. » Pierre dit « Il nous a fait naître de nouveau », donc il s'associe à eux. Et nous-mêmes, ce soir, pour ceux d'entre nous qui avons reconnu également en Christ notre Sauveur et Seigneur, nous sommes inclus dans ce « nous » et si nous avons reçu donc cette bonne nouvelle de Dieu par la foi. Il nous a donc donné une vie nouvelle par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors Pierre rappelle ici une vérité qui est parfois oubliée, mais que tout le Nouveau Testament proclame. C'est que la résurrection de Jésus, dont nous avons parlé, qui a été évoquée d'ailleurs dans certains des chants que nous avons chantés, c'est pas seulement, comme on pourrait peut-être le penser, une sorte de happy end pour Jésus lui-même, hein, l'histoire qui se termine bien. C'est surtout la victoire que Dieu a remportée sur la mort et que Jésus, en représentant de l'humanité devant Dieu, a remporté pour nous à notre place. Il a inauguré pour nous une vie nouvelle qui est une vie de victoire sur la mort. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, de son côté, nous dit que nous sommes héritiers du Christ et qu'au jour où Dieu va renouveler toute la création et va ramener toute la création sous son autorité, eh bien nous aussi, nous serons transformés, renouvelés à la suite de la résurrection de Jésus. Alors cette transformation, elle est déjà en cours dans la vie spirituelle, dans la vie intérieure de ceux qui ont reconnu en Jésus-Christ leur maître. Elle prend du temps, mais elle est en cours. Mais un jour, la Bible nous dit qu'elle sera parfaitement accomplie dans une vie éternelle, vécue dans une nouvelle création, vécue vraiment physiquement, corporellement. Donc c'est pas étonnant que Pierre nous parle d'une espérance vivante et qu'il insiste très fortement au verset 4. Il dit que nous sommes les bénéficiaires d'un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable. Vraiment, il met le paquet. Et ce que Pierre dit ici, peut-être que pour certains d'entre nous, c'est quelque chose que nous avons entendu maintes et maintes fois. Peut-être pour d'autres, c'est au contraire tout nouveau. Mais même si nous sommes chrétiens de longue date, je crois qu'il ne faut jamais cesser, jamais se lasser de le répéter. Dieu est intervenu pour nous dans l'histoire. C'est un fait accompli. Il l'a fait par un acte décisif et rien ne pourra défaire cet acte décisif, quelles que soient nos circonstances. Mon grand-père, du côté paternel, venait d'une famille modeste et il était le premier de sa famille à avoir fait des études supérieures. Et lorsque son propre fils, donc mon père, a terminé son premier cycle d'études à l'université, qu'il a reçu son diplôme, eh bien mon grand-père lui a dit, en se rappelant certainement son propre parcours, mon grand-père lui a dit, quoi qu'il arrive, eh bien, on ne pourra jamais t'enlever ça. Même s'il t'arrive toutes les misères du monde, le fait que tu as terminé ce programme à la fac, que tu es diplômé, personne ne pourra jamais te l'enlever. De même, et à combien plus forte raison, rien ni personne ne pourra défaire ce que Dieu a fait concrètement et historiquement pour nous. Il a livré son Fils unique, que la Bible nous décrit comme étant son vis-à-vis parfait, Dieu le Fils. Il l'a livré pour nous à notre place. Il a en quelque sorte brisé la mort de l'intérieur par la résurrection de Jésus. Comme le chant le disait, la mort est morte. J'aime bien cette formule. Et il nous a offert une vie nouvelle. Ce qui est frappant dans ce texte, et notamment dans les versets 3 à 5, c'est que Pierre va insister, si on regarde bien, sur la dimension passée, présente et future de ce que Dieu a fait pour nous, de l'œuvre de Dieu pour nous. Donc il nous dit ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait et ce que Dieu va faire. Alors, premièrement, dans le passé, il a agi. Verset 3, il nous a fait naître de nouveau. Donc c'est fait, c'est accompli. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Encore une fois, je le répète, un acte historique, un acte accompli. Mais Pierre dit également que Dieu agit aujourd'hui dans nos vies. Il nous dit que notre héritage nous est réservé dans les cieux. Donc ça, c'est un retentissement sur l'avenir, mais c'est une réalité aujourd'hui. Et nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Et enfin, c'est à l'avenir que nous recevrons la plénitude, la totalité, si vous voulez, de ces bénédictions. L'héritage nous est réservé dans les cieux, donc c'est comme si voilà, il y a une réservation qui est faite, donc c'est déjà décidé, mais on va encore, il faut attendre un peu pour en connaître les pleins bénéfices. Donc cet héritage est fermement établi, mais en même temps, il nous attend pour l'avenir. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, nous dit Pierre, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Si on repense aux derniers mots, enfin, certains des derniers mots de Jésus sur la croix, tout est accompli, ou s'est accompli, comme dans un dernier soupir. Rien ni personne ne pourra défaire ce que Dieu a fait. Et Pierre nous rappelle que nos circonstances, donc, aussi difficiles soient-elles, ne pourront pas remettre ça en question. Les pires choses dans notre vie ne vont pas faire que Jésus ne sera plus ressuscité. C'est pas possible. C'est accompli. Et c'est sur cette réalité que nous sommes appelés à bâtir nos vies entières. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nos souffrances, nos épreuves peuvent et doivent être vécues. Et c'est pour ça que, alors même que Pierre écrit à des chrétiens qui souffrent, et on va le voir tout au long de cette lettre, Pierre ose parler de joie. Et c'est le deuxième point. Une joie fondamentale. Alors je reconnais que c'est pas très joli comme titre, hein, une joie fondamentale. On se demande un peu ce que ça veut dire. J'ai pas trouvé mieux comme adjectif que fondamental pour exprimer ce que je voulais dire, donc je l'ai mis. Une joie fondamentale, tout simplement parce que c'est une joie qui sert de fondement à notre vie entière. Le verset 6 est très frappant, parce que Pierre met en rapport deux choses que normalement on met pas en rapport, c'est-à-dire la joie et la tristesse. Ainsi, vous êtes transportés d'allégresse. En plus, c'est pas vous avez un peu de joie, c'est vous êtes transportés d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves. Donc les chrétiens sont attristés par diverses épreuves, nous dit Pierre, et pourtant ils sont transportés d'allégresse, hein, on dirait peut-être pas ça aujourd'hui, mais ils sont fous de joie, ou plein de joie. Alors, certainement, Pierre fait exprès d'insister sur le paradoxe. Hein. Il sait bien que ce qu'il est en train de dire est contradictoire au premier abord. Et c'est justement l'effet qu'il recherche. Et il faut prendre très au sérieux ce qu'il nous dit. Alors, à première vue, on peut se dire que c'est un peu facile de dire ça. Hein. Comment imaginer qu'on peut tressailler d'allégresse quand on est en plein dans l'épreuve ? Peut-être que de l'extérieur, on peut dire oui, il faut quand même être dans la joie. Mais quand on est en plein dedans, franchement, c'est peut-être votre réaction, comment est-ce qu'on peut être transporté de joie ? Est-ce que ce n'est pas un déni de la réalité ? Il me semble que la clé pour répondre à cette question se trouve dans ce qui est pour Pierre la raison de cette joie. Et il y a un petit mot qui me semble assez décisif, c'est le « ainsi » du verset 6, parce qu'en fait, ça fait le lien avec ce que Pierre a dit juste auparavant, verset 3 à 5. Alors, je vais paraphraser un peu ce que nous dit Pierre. Faisons comme si on entendait ça pour la première fois. Dieu nous a fait naître de nouveau. Il nous a dit ça, donc, versets 3 à 5. Donc, il nous a donné une vie nouvelle auprès de lui, un nouveau départ. Il garde pour nous un héritage, un avenir impérissable, autrement dit, que rien ni personne ne pourra remettre en question. Ça nous est réservé dans les cieux, donc, tenu en réserve pour nous par Dieu lui-même. Dieu qui, également, nous garde par sa puissance et qui empêche ainsi que nos épreuves nous conduisent au désespoir. Et enfin, Dieu s'apprête à accomplir pleinement son salut, à renouveler toutes choses, et nous avec, à nous faire vivre en relation avec lui dans une nouvelle création pour l'éternité, sans que rien ni personne ne puisse plus jamais nous séparer d'une joie totale et inimaginable. Voilà ce que Pierre vient de dire. Et si véritablement on croit cela, si on croit les promesses de Dieu, alors la question n'est plus de se dire « mais comment pourrait-on être dans la joie ?» mais plutôt « comment pourrait-on ne pas être dans la joie ?» Alors Pierre n'est pas dans le déni de la réalité. La preuve, c'est qu'il reconnaît que les épreuves attristent les chrétiens d'Asie. À la fin de sa lettre, il va décrire ces épreuves comme une fournaise, donc un terme très fort. Et il ne cesse d'inviter les chrétiens au courage face à la réalité de la souffrance. Et d'ailleurs, Pierre savait très bien de quoi il parlait quand il parlait de souffrance. Il a écrit cette lettre vers la fin de sa vie et il avait subi plus que son lot de souffrance pour la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc Pierre n'est pas dans son canapé en train de dire « Ah oui, la souffrance », en train de philosopher là-dessus. Il sait très bien de quoi il parle. Alors oui, cette joie, elle est paradoxale, elle paraît étrange au premier abord. Bien sûr, la joie dont parle Pierre ici, c'est pas le fait d'être hilar, d'être une super bonne humeur tous les jours, alors même qu'on est dans la souffrance. C'est évidemment pas ça que Pierre veut dire. Mais elle est, et je reviens à mon terme, fondamentale. C'est-à-dire qu'elle est le roc sur lequel notre vie est bâtie. Et elle est possible parce qu'elle repose sur des choses qui ne dépendent pas justement de notre quotidien, qui ne dépendent pas de nos épreuves. Elle repose sur l'œuvre parfaite, accomplie et éternelle de Dieu. Alors c'est vrai qu'en pleine tourmente, peut-être que certains en ce moment sont en pleine tourmente, ou l'ont été récemment, il est difficile, et je le reconnais pleinement, de rester accroché à cette réalité. Et le réflexe, c'est de demander à Dieu pourquoi. Et pour nous qui sommes croyants, j'imagine qu'il y a au moins une fois dans la vie où on a demandé à Dieu, mais enfin pourquoi ? Je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi as-tu permis que je perde mon travail ? Pourtant, je l'avais vécu comme une réponse à la prière. Est-ce que ça veut dire que tu ne te préoccupes pas de moi ? Ou encore, Seigneur, ça fait des années que je souhaite rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais partager ma vie. Je persévère, je choisis de refuser la façon de vivre de la plupart de mes contemporains pour te faire confiance. Et pourtant, j'attends toujours. Mais pourquoi, Seigneur ? Et vous pourrez imaginer encore beaucoup d'autres pourquoi. Et je crois que c'est une question que Dieu nous permet de demander. Et la preuve, c'est que la Bible fait état de pas mal de pourquoi. Si on lit le livre de Job, il y en a beaucoup. Si on lit les psaumes, il y en a beaucoup aussi. Et si Dieu nous permet de lui demander pourquoi, c'est aussi parce que Dieu n'est pas comme un dictateur complexé qui serait mis en danger par nos interrogations. Au contraire, il reçoit volontiers nos interrogations vigoureuses. Mais pour que celle-ci ait du sens, pour qu'elle puisse aboutir à la foi et pas au désespoir, il faut s'en remettre à lui. Et cette foi n'est pas absurde, c'est pas une sorte de la méthode Coué, comme on dit, qui fait qu'à force de dire quelque chose, on finit par croire que ce soit vrai. Donc on se dit peut-être parfois, je vais faire comme si j'étais heureux, je vais avoir le sourire, je vais dire Alléluia à la fin de chacune de mes phrases, et puis peut-être que je vais finir par être heureux. C'est vraiment pas à ça que Dieu nous appelle. Mais Dieu nous invite, alors même que nous lui demandons pourquoi, à nous rappeler ses bienfaits. Non seulement les bienfaits de notre quotidien, et ça, il y en a même quand ça semble aller très mal. Tout ce que Dieu nous donne quotidiennement pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse être en relation avec d'autres personnes, le fait qu'on ait, pour la grande majorité d'entre nous, un toit, qu'on ait de quoi manger, qu'on ait l'air pour respirer, tout ça, c'est des bienfaits de Dieu qu'on oublie souvent. Donc non seulement cela, mais encore et surtout, les actes historiques de Dieu dont nous avons déjà parlé, qui sont posés en notre faveur pour toujours et que rien ni personne ne peut remettre en question. Et je crois que en cette prise de conscience de ce que Dieu a déjà fait pour nous, et que rien ne pourra changer, nous aidera à inverser le sens de nos pourquoi, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va peut-être continuer à se demander pourquoi moi, mais dans le sens inverse. On va peut-être demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu choisi pour que je sois ton enfant ? Pourquoi est-ce que tu as permis que je croie en toi, alors même que tout autour de moi, je vois des personnes qui vivent leur vie sans tenir compte de toi ? Pourquoi est-ce que tu m'as aimé au point d'accepter que ton Fils unique soit crucifié à ma place, pour moi, et condamné à ta colère à ma place, pour que moi, j'en sois épargné. Seigneur, pourquoi permets-tu que finalement je ne manque jamais de rien, et que au sein même de la tempête, tu viens à ma rencontre, toi, le Créateur de l'univers. Seigneur, pourquoi ? Il y a un cantique qui dit cela, « Je ne sais pourquoi ». Dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, etc. C'est un très beau cantique qui rappelle ces réalités. Alors comment vivre cette joie concrètement, me demanderez-vous. C'est peut-être bien en théorie, mais comment faire pour inverser nos pourquoi et pour vivre la joie, alors même que tout autour de nous, parfois, semble être la souffrance. je proposerai, à la lumière de la Bible, quelques indications, en soulignant bien sûr qu'il n'y a pas de formule magique. Mais premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, tout en reconnaissant que Dieu est Dieu, n'ayons pas peur de lui exprimer ouvertement notre souffrance. Et la Bible est pleine d'exemples d'hommes et de femmes qui ont lancé un SOS à Dieu, qui n'ont pas fait semblant que tout allait bien, qui ont été très honnêtes sur ce qu'ils ressentaient, qui n'ont pas non plus adopté une mine grave en se complaisant un peu dans l'épreuve, comme ça peut être une tentation parfois, mais qui ont crié leur souffrance à celui et celui seul qui peut en définitive y mettre fin. Et l'exemple le plus frappant de ça, c'est Jésus lui-même. Dans son cri sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On pourrait parler longtemps de cette phrase qui, par certains aspects, est mystérieuse. Nous avons le droit de demander pourquoi, de crier pourquoi, de pleurer pourquoi. Parce qu'en nous adressant à Dieu ainsi, nous reconnaissons implicitement que c'est lui qui a la solution. Et d'ailleurs, en criant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» on ne le relève pas souvent, mais Jésus s'est placé dans le cadre de cette relation inaltérable avec Dieu. Alors même qu'il subissait l'enfer, on peut vraiment le dire au sens fort, à la croix, il disait encore « mon Dieu ». Il reconnaissait encore que Dieu était son Dieu. Ce qui déplaît à Dieu, ce n'est pas que nous lui demandions pourquoi, mais c'est plutôt que nous ne lui demandions rien du tout, que nous cessions de lui parler. Alors parfois, il faut reconnaître qu'on ne comprend pas l'épreuve. Mais la foi, c'est aussi reconnaître que Dieu sait, lui, une infinité de choses que nous ne savons pas. Donc, n'ayons pas peur d'exprimer librement notre souffrance. Dieu peut très bien encaisser ce que nous avons à dire, il n'y a pas de problème. Mais par contre, reconnaissons que Dieu est Dieu et qu'il est notre Dieu. C'est le point de départ pour vivre l'épreuve dans la foi. Et si nous nous rappelons ce qu'il a déjà fait pour nous, tout ce qu'il a déjà accompli, par sa grâce et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pourrons trouver, même dans notre détresse, une assurance magnifique, une joie fondamentale, entre guillemets, que l'assurance que Dieu nous aime bel et bien, qu'il l'a prouvé, qu'il nous garantit toujours un avenir glorieux. Et si nous savons que sa présence nous est acquise pour toujours, alors nous savons que nous avons déjà ce qu'il y a de plus essentiel. Nous avons déjà le plus important. Le troisième point que je voudrais relever pour terminer dans le propos de Pierre, qui est aussi une source de joie, c'est le résultat de l'épreuve pour celui qui la vit dans la foi. Une foi éprouvée. Pierre va plus loin encore que de nous inviter à la joie dans l'épreuve. Il nous dit que l'épreuve, c'est un des moyens utilisés par Dieu pour que notre foi soit renforcée, pour que notre intimité avec lui soit approfondie, et donc pour que, en définitive, nous soyons plus heureux, plus joyeux dans cette communion. Alors là encore, au premier abord, on a envie de protester. On a envie de dire, pour de petites épreuves, que ça puisse m'apprendre quelque chose, passe encore. Mais quand on pense à des choses terribles subies par certains, comment penser que Dieu puisse permettre cela? Ou pire, qu'il puisse utiliser cela? Voyons ce que Pierre nous dit précisément. Je crois qu'il y a deux expressions qui peuvent retenir notre attention ici. Tout d'abord, il nous dit que nous sommes éprouvés puisqu'il le faut. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il me semble que la meilleure façon de le comprendre, c'est que pour Pierre, ces épreuves, elles font partie de la réalité actuelle du monde, une réalité qui n'est pas éternelle, mais la réalité actuelle du monde. Nous vivons dans un monde en sursis, face auquel Dieu patiente avant justement de renouveler toute chose, parce qu'il veut que beaucoup d'autres hommes et femmes encore se tournent vers lui par la foi. Et la foi, qu'est-ce que c'est pour Pierre? Il nous en donne un peu une définition au verset 8 et 9, une belle définition. Vous ne l'avez pas vu, Jésus-Christ, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui. Et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. La vie par la foi fait partie du plan de Dieu. En attendant la vie par la vue qui nous attend dans la nouvelle création à venir. Dieu, en fait, prend plaisir à ce que des hommes et des femmes et des enfants qui ne le voient pas l'aiment déjà et lui fassent déjà confiance. Mais cette vie par la foi, elle est vécue dans un monde pécheur et dans un monde rebelle. Un monde dans lequel les disciples de Jésus-Christ ne sont pas épargnés par les épreuves, bien au contraire. Le deuxième élément qui doit retenir notre attention, c'est le « afin » du verset 7. « Afin que la qualité éprouvée de votre foi se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur. » Donc Pierre nous dit que Dieu utilise des épreuves pour renforcer notre foi. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, je m'adresse là plutôt à ceux qui sont croyants, mais je pourrais témoigner pour ma part que c'est dans l'épreuve souvent que nous finissons par voir plus clairement. Nous comprenons que nous avons besoin de Dieu pour chaque aspect de notre vie. Nous le prions d'autant plus ardemment, passionnément, parce qu'on attend sa délivrance. Et on arrête de croire pendant l'épreuve qu'on est les maîtres de nos vies et que ça va, on gère tout ce qu'on gère et qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas l'épreuve elle-même qui est un sujet de joie, si on regarde bien ce que Pierre dit. L'épreuve, au contraire, c'est un sujet de tristesse. Vous êtes attristé par diverses épreuves. Mais par contre, l'intimité avec Dieu que nous trouvons ou que nous retrouvons souvent dans l'épreuve, elle, par contre, elle est un sujet de gloire, de louange, de gloire et d'honneur. Verset 7. Et un jour, nous dit Pierre, en présence de Jésus-Christ, tandis que nous obtiendrons le salut comme aboutissement de notre foi, eh bien, notre persévérance dans l'épreuve, à ce moment-là, elle sera un sujet de gloire et d'honneur. Elle sera un sujet d'une joie qui n'en finit plus. Alors, est-ce qu'on peut trouver des bénédictions, des bienfaits au cœur même de la souffrance? La réponse est oui. Ce n'est pas une réponse facile à prendre à la légère. Mais disons qu'il y a deux façons de réagir à la souffrance. On peut s'enfuir loin de Dieu et chercher à oublier notre souffrance peut-être simplement dans la banalité du quotidien, ou bien dans certaines idoles, entre guillemets, comme l'argent, l'alcool, le sexe, le travail peut-être, se plonger dans le travail pour oublier. Peut-être les loisirs, se plonger dans les loisirs pour oublier aussi. Tout pour oublier la douleur. Ou bien nous pouvons, alors même que nous ne comprenons pas tout, voire pas grand-chose, nous pouvons nous jeter dans les bras de Dieu. En reconnaissant qu'en lui, nous trouverons une infinité de bienfaits et de joie, alors même que notre quotidien nous fait souffrir. Et puis on pourra méditer la preuve suprême du fait que Dieu permet parfois les épreuves pour le bien. La preuve suprême, c'est la croix de Jésus-Christ. Ce poteau de torture où un innocent a souffert, une épreuve choquante, il a souffert injustement, mais librement, en subissant la conséquence de nos fautes, la colère et le jugement du Père. La croix, c'est le symbole par excellence de la souffrance incompréhensible et injuste. Et pourtant, c'est grâce à la croix que nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à la croix que nous avons connu une vie nouvelle avec Dieu. Et après la croix, après l'épreuve, est venue la délivrance, la résurrection, la vie nouvelle, éternelle, impérissable. Donc même dans l'épreuve, nous pouvons être remplis de joie, non pas par nos propres forces, mais parce que Dieu aura attiré notre attention sur ce qu'il a déjà fait pour nous, ce qu'il fait encore chaque jour. Et puis les choses inimaginablement bonnes, je ne sais pas si le mot existe, mais incroyablement bonnes, qu'il nous réserve pour l'avenir. Et en se rappelant l'épreuve terrifiante que Dieu, lui-même, le Fils, a subie pour que nous connaissions la joie, nous avons la preuve que même si nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive, Dieu sait ce qu'il fait. Il reste le maître, non seulement de notre passé, de notre présent, mais aussi de notre avenir. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte qui nous rappelle l'héritage extraordinaire que tu tiens en réserve pour nous. Et cette joie, nous voulons la vivre alors même que notre quotidien est fait parfois de moments difficiles et parfois très difficiles. Je voudrais te demander ce soir d'encourager, de renouveler les forces de ceux et celles qui passent par des temps de souffrance, soit des souffrances physiques, des souffrances psychologiques, émotionnelles, des luttes peut-être dans leur foi. Je te prie pour que tu nous rappelles ce que tu as déjà fait pour nous, que tu nous rappelles que rien ne pourra nous séparer de l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ et que tu nous donnes de tenir ferme en vivant cette épreuve dans la relation que nous avons avec toi, en reconnaissant que même si nous ne comprenons pas, tu es Dieu, tu es notre maître et tu as déjà prouvé que tu nous aimes pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.